Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous êtes sur Radio Grand Air, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entracte, émission consacrée au cinéma en pays foyen. Et nous allons retrouver, bien sûr, comme chaque semaine sur la radio, avec grand plaisir, Pascal, le maître du temps, le maître des lieux. Bonjour Pascal.
Et tu sais, à chaque fois tu me fais des intros, je ne sais pas quoi dire derrière, tu sais.
T'as vu ça un peu?
Bonjour Christophe, alors on est revenu évidemment dans l'hall du cinéma.
Hein, oui.
C'est, voilà, et c'est plutôt chouette, hein, c'est retour à la maison. Eh bien... Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 72 d'Entracte.
Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et ça nous fait bien plaisir.
Oui, c'est vrai, on a regardé les chiffres tout à l'heure. Oui, alors un grand merci du fond du cœur pour ceux qui vraiment suivent l'émission. Merci à vous, hein. C'est vraiment chouette.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, bien sûr. Oui. Donc vraiment, vraiment, du fond du cœur, merci.
Ben, on essaiera de passer un petit message tout à l'heure dans l'émission. On aura une surprise à vous dire, bien sûr, mais on le dira un petit peu plus tard. Alors, au sommaire de cette nouvelle émission au cinéma, depuis le cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande, eh bien, tu as choisi 5 rendez-vous cette semaine.
Voilà, j'ai choisi 5 films. Alors évidemment, on s'approche, on s'achemine, on va vers les vacances estivales et le cinéma, on va dire, incline plus vers les programmations pour les enfants. Bon, évidemment, il y en aura pour les adultes. Hein. Mais voilà, c'est vrai que l'été, il y a énormément de programmes pour les enfants, les adolescents et tout ça. Quoi. Donc, j'ai choisi 5 films cette semaine. On va parler de Miraculous, le film qu'on aura en avant-première. Hein. Ça sera une avant-première vraiment... dimanche prochain, donc le dimanche 11 juin, donc ça sera la dernière création de Jérémy Zag. On va parler aussi du dernier film d'Isabelle Mergault, que tout le monde connaît.
Ah oui, Isabelle Mergault,
oui,
qui a un bon cheveu sur la langue.
Voilà, exactement, tu vois de qui je parle. Donc, oui. Mais tu vois, mais c'est quand même... Alors autant avant, on la voyait dans Les Grosses Têtes, ou peut-être ouais. L'Académie des 5, ou ce genre de jeu télévisé, mais Isabelle Mergault. Est une réalisatrice.
Exact. Ouais.
Et elle a fait quand même une paire de films. Hein. Donc on va parler des Mains en or. On va parler aussi du dernier film de Steven Caple Jr. Transformers.
Oh, bien dit.
Transformers, oui. The Rise of the Beast. On va parler aussi du dernier film de Florence Vignon, donc L'Homme debout, ainsi que de la dernière création d'Andrea Bagnier, Ramona fait son cinéma. Et dans le cadre donc, de la sortie des Mains en or,
c'était une évidence.
Ouais, c'était presque une évidence. Oh, j'ai quand même oscillé entre plusieurs personnages, mais voilà, j'ai envie de parler d'une actrice, réalisatrice, que tout le monde connaît depuis très longtemps. J'ai nommé...
Marie-Jo.
Josiane Balasko.
Oui, qui jouait le rôle de Marie-Jo.
Marie-Jo, c'était dans...
Gazon maudit.
Ah oui, d'accord. Ah, oui. Je crois que c'était Les Bronzés. Les Bronzés font du ski.
Ah oui, Les Bronzés aussi, effectivement.
Mais il y a énormément de films. Oui, tu vas voir, dans sa filmographie, alors il y a énormément de films. J'ai choisi quand même les plus connus, hein, mais sinon, il y en a une centaine.
Ouais.
Elle a tourné une centaine de films, Josiane Balasko. Hein.
Oui. Et si ce n'est pas le cinéma, elle est bien sûr au théâtre.
Aussi, oui. Oui. Une grosse carrière derrière elle. Et devant, j'espère, c'est mesquin de dire ça, c'est horrible, j'ai une grosse carrière derrière elle.
Josiane, si tu nous entends, appelle-nous.
Me maudire. Et oui, une grosse carrière derrière elle, et devant elle, évidemment.
Ben oui. Elle a encore du chemin à faire,
bien sûr, ouais.
Josiane. Alors on va commencer par une petite production française, c'est pas une petite, hein, c'est une belle production française. Un film d'animation pour les jeunes et c'est un rendez-vous sympa à mon avis, on va bien rigoler. Les personnages, des super-héros je pense.
Alors on va parler de Miraculous. Alors ça sera un film qu'on aura en avant-première. J'en ai parlé la semaine dernière.
Oui, c'est vrai.
Je le rappelle parce que vraiment, oui, il faut quand même faire passer l'info. Hein. On a une belle affiche dans le hall. C'est vrai, elle est jolie l'affiche.
Moi,
j'aime beaucoup. Une avant-première que nous aurons le dimanche 11 juin à 16h. Donc
c'est
n'oubliez
bien.
Pas d'amener vos,
après la sieste.
Vos enfants. C'est juste après la sieste. C'est parfait. C'est un bon horaire. Et c'est vrai que tu sais quoi, chez les professionnels, les programmes pour enfants sont en général sont programmés vers les 16h. Évidemment, quand tu as les créneaux suffisants. Mais c'est vrai que l'heure idéale, c'est 16h. Hein. Donc, Miraculous.
Oui, film d'animation français.
Alors, c'est franco-américano-japonais. Donc à partir de 6 ans, c'est un film d'animation d'1h45, donc animation, comédie, action, aventure de Jérémy Zag. Donc la super-héroïne qui a conquis le cœur des millions de fans à travers le monde débarque pour la première fois au cinéma. Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n'a pas sa langue dans sa poche pour affronter le papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Oh, il n'y avait pas que...
C'est pas joli tout
ça. Oui. Donc, Paris brûle-t-il ?
Oui, c'est vrai.
Et oui, mais alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse. Voilà. Alors évidemment, c'était dans mon première. La presse est plutôt avare de renseignements là-dessus. Je n'ai pas de fiche vraiment sur ce film-là. Hein. Voilà, donc je vous invite vivement à venir quand même le découvrir, donc en avant-première, dans tous les cas, nous l'aurons très certainement en sortie nationale un peu plus tard.
Eh bien, c'est noté, Pascal, je pense qu'on passera un bon moment, hein. C'est très très famille, on l'a dit. On va parler maintenant des Mains en or. C'est un film événementiel cette semaine avec des acteurs qui font le retour. Et t'en parlais il y a quelques instants, Julien Balasco donc, fait son retour dans ce film. Mais on va retrouver un excellent Lambert Wilson aussi. Et Sylvie Testu.
Et Sylvie Testu, oui, bien sûr, qui fait partie du casting. Oui, oui, et puis bien d'autres acteurs, bien sûr. Donc Des Mains en or, c'est un film français d'1h30 et c'est une comédie d'Isabelle Mergault. Alors, elle en a fait des films Isabelle Mergault, pas beaucoup, hein, mais elle en a fait quand même pas mal. Enfin, je dirais, oui, oui. En 2005, elle a réalisé Je vous trouve très beau, avec Michel Blanc et Médéa Marinescu. En 2007, Enfin veuve. Alors, c'est des films parmi d'autres hein, qu'elle a réalisé avec Michel Larocque et Jacques Gamblin. En 2009, elle a réalisé Donnant avec Daniel Auteuil et Sabine Azéma. Ça, c'est un petit peu ses dernières créations. Alors, au niveau de la distribution des rôles, on va retrouver évidemment Lambert Wilson, avec son style.
Très beau.
Très, très académique. Tu comprends, ça tombe bien parce qu'il est académicien dans le film. Hein. On va retrouver Josiane Balasco, évidemment. Sylvie Testu, Béatrice Facker, Jean-Louis Barcelona et Nicolas Briançon. Donc, c'est l'histoire de François, donc futur académicien, qui est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d'amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s'il ne souffrait d'un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Oui, comme on l'avait dit, c'est le mal du siècle. Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l'incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s'atténuer. Il va devenir dépendant des mains de Martha qui l'apaisent davantage que n'importe quelle antidouleur. Entre ces deux personnages se tisse une amitié étonnante avec l'occasion pour eux d'enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir. Et oui, comme je l'avais dit, c'est vraiment d'une histoire qui rassemble deux personnes que tout oppose. Une est plus populaire, lui est académicien, futur académicien, un peu guindé, un peu précieux. Et il rencontre Martha, un peu, je dirais, massive, un peu rude, on va dire, mais pleine d'humanité, pleine de bon sens. Alors, la naissance du projet, évidemment, d'où vient cette histoire ? Donc, Isabelle Mergault a réglé un gros problème à une jambe. Après avoir consulté de nombreux spécialistes qui finissaient par conclure que le mal se situe dans sa tête, la réalisatrice est allée voir une guérisseuse, alors qu'elle vient d'une famille de médecins allopathes. Et comme elle nous dit, en fait, je m'étais perdu sur une route de Normandie, comme dans le film, j'ai vu son affiche, je me suis présenté chez elle, et quand je suis sorti, je ne boitais plus. J'ai
étonnant.
Développé... Ah oui, oui, oui. Donc c'était une bonne guérisseuse.
Ah oui.
Et oui. Mais t'imagines la tête de la guérisseuse qui ouvre la porte. Oh, Isabelle Mergaud.
Venez me voir.
Mais j'imagine la scène, tu vois, ça doit être marrant. Donc j'ai développé une histoire à partir de ce point de départ en ayant envie de confronter deux personnes douées de leurs mains, l'un parce qu'il écrit, l'autre parce qu'elle soigne. Deux personnes qui n'ont pas grand-chose en commun. J'avais envie de faire de cet intellectuel quelqu'un qui devient dépendant d'une rebouteuse. C'est venu comme ça. J'ai écrit très vite, sans plan, j'ai dialogué, sans savoir forcément où j'allais, sans fin prévue. Voilà, et c'est jeté à corps perdu dans son projet. Je trouve ça bien, hein. Ça veut dire qu'elle a été super inspirée. Donc c'est évidemment 13 ans après Donnant, qui est sorti en 2010. Donc Isabelle Mergaud n'était plus revenue à la réalisation car occupée par le théâtre.
Et oui.
Et comme elle nous le dit, tout s'est enchaîné, y compris les périodes où l'on a besoin de souffler un peu, de s'occuper des siens. Être sur les planches, c'est ma place, l'endroit où je me sens le mieux. Aucune fâcherie dans tout cela avec le cinéma où je suis arrivé à la réalisation par hasard. Il y a presque 20 ans, quand Michel Blanc m'a demandé de mettre en scène, donc je vous trouve très beau, dont j'avais écrit le scénario. Et c'est vrai qu'il était chouette ce film, j'aimais bien, hein, ça parlait de la solitude, de manière des exploiteurs agricoles, et puis surtout des mariages avec des personnes d'autres pays, tout ça. Donc c'était très intéressant. Donc le choix du tandem, donc Isabelle Mergaud a d'abord pensé à Lambert Wilson parce qu'en raison de son élégance. Puis elle a choisi Josiane Balasko pour son côté populaire. Et comme elle nous dit, elle m'a dit oui. J'aime ce duo auquel on peut croire. Josiane est évidemment plus cultivée que Martha, mais je pense qu'elles ont en commun une forme d'élégance du cœur. J'ai eu la chance d'avoir deux personnes du cinéma qui savent tout faire dans le domaine de l'émotion, y compris le grand écart entre le rire et les larmes, se rappelle la cinéaste. Alors, où ça a été tourné?
Ah.
Ah, moi j'aime la géographie.
En Bretagne?
Ah, t'es pas loin.
Ah, tiens. Hein? Alors où?
La Normandie.
La Normandie, d'accord.
Isabelle Mergaud a tourné des mains en or durant l'été 2022 en Normandie. La cinéaste adore en effet la côte de Nacre. Et comme elle nous dit, j'y suis allé pendant 15 ans, j'y louais une maison, j'y ai souvent emmené ma fille, mais sur cette côte, la mer n'est jamais là où on l'attend. On faisait des châteaux de sable en espérant qu'elle remonte, et ça a fini par la lasser. Nous avons tourné à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le restaurant, le crabe vert, rebaptisé les mouettes dans le film. Donc je connais très bien le patron et où j'allais régulièrement déjeuner, mais il a dû être ravi de voir sur l'établissement. Et puis ça fait une belle pub en plus.
Ah ben, c'est
ça
sûr.
Fait vraiment une belle pub.
Ouais.
Donc Isabelle Mergaud aime raconter des histoires dans lesquelles les gens sont au départ enfermés dans des carcans sociaux ou affectifs et dont ils parviennent à sortir grâce à des rencontres qui les transforment. Et comme elle nous dit, ce sont des êtres malheureux qui n'ont pas été touchés du doigt par la grâce d'un amour ou d'une attention ou parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes et ça me bouleverse. François, révélé par la grâce de Martha, s'humanise. En fait, elle l'accouche comme une mailloticienne de cette humanité qui était là enfouie et qui aurait pu ne jamais sortir peut-être par peur ou parce que les autres l'ennuyaient. Je suis moi-même comme cela, on ne m'a pas débloqué. Ce n'est pas qu'en écrivant que je trouve le bonheur que je parviens à sortir de mon existence, développe la réalisatrice. Alors parmi les seconds rôles se trouve Jean-Louis Barcelona qui avait déjà joué pour Isabelle Mergaud dans Donnant et dans toutes ses pièces de théâtre. Et comme elle nous dit, il y a une puissance comique énorme à la manière d'un Villeray. Il mériterait de travailler beaucoup plus. Je voudrais qu'avec ce film, on le remarque davantage et qu'on lui confie de plus en plus de rôles, confie la réalisatrice. C'est vraiment sympa.
Ah oui.
De les mettre en avant comme ça.
C'est clair.
Et Sylvie Testu donc, incarne Rose, l'épouse de François, qui est une professeure de médecine. Et comme elle nous dit, je suis issue de ce milieu. Mes parents médecins et chirurgiens étaient plus intelligents, mais à l'adolescence que j'ai vécue, compliqué, ils avaient toujours envie de me donner un petit truc pour me stabiliser. Rose tente de soigner son mari, s'inquiète malgré tout, mais elle a le nez dans son Vidal, qui est le dictionnaire, tu sais.
Oui, des médecins.
Des médecins.
Exact.
Si elle savait que c'est une rebouteuse qui le guérit, elle deviendrait folle. Ma mère n'a pas compris non plus. J'ai tout multiplié par 100 pour écrire ce rôle. Alors j'ai choisi Sylvie Testu parce que j'ai trouvé qu'elle formait un beau couple avec Lambert et surtout parce que je savais qu'elle avait le talent pour incarner ce personnage un peu dur, raconte Isabelle Mergaud. Une chouette histoire.
Oui, mais je pense.
De chouettes rencontres.
Oui.
De chouettes endroits où elle a tourné. Voilà. La Normandie, c'est un très joli pays. Que je vous recommande. Hein. J'ai eu de la famille là-bas. Moi, j'aime beaucoup.
Et joli paysage. Et puis, voilà. On dit souvent la Normandie, pleut. Pas forcément.
Non, pas toujours. Après, c'est un pays d'hiver, oui, certes. Mais il y a plein de choses à découvrir là-bas. C'est ça qui est chouette.
Ouais. Donc un très bon film à voir cette semaine, avec une belle histoire en tout cas. Et on va découvrir ensemble la bande-annonce sur Radio Grand Air.
Bah tu veux chercher vos gens, je suis... Ça va mieux ?
Vous êtes qui, vous ?
Martha. T'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et il y en a des mal là-dedans.
Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux.
L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une consécration ?
T'écris quoi ? Des romans, des trucs comme ça ?
Nous ne ferons pas l'amour ce soir.
Ah ben là, j'y comptais pas, je suis crevé.
C'est le titre de mon premier roman, Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre ? On va attraper la mort !
C'est la vie qui t'attrape !
Ma femme doit se faire un sang d'encre.
François, monsieur !
C'est elle qui me soigne.
Elle est médecin ?
Professeur en médecine.
Demain, je change ton traitement, tu vas essayer l'Arbonax 1000. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets.
Mais je suis pas encore handicapé non plus.
En attendant, c'est moi qui fais les nœuds.
Une rebouteuse, c'est le divorce, là.
Guérisseuse, parce qu'on entend guéri.
Vous êtes souffrant, vous voulez que j'appelle madame ?
Tout va bien, Gildas. Faudrait bien un petit café, s'il vous plaît.
Il a souri.
Il a souri.
Ah bah t'as une mine, toi. Tu devrais écraser des marques un peu souvent.
Vous êtes vraiment incroyable.
En tout cas, l'Académie te réussit. Hein.
Et je me suis rarement senti aussi bien.
Martha !
Mais tu la connais ?
Martha, attends !
Laisse-moi !
C'est pas un type bien. Il s'intéresse à rien, à part ses bouquins.
T'as raison, le salopard.
Je vais voir la mère ! C'est quand même quand ce qu'on a les pieds dedans que c'est le mieux !
Je te dois tout. Tu m'as tellement donné.
C'est parce qu'ils attendent rien que les oiseaux ils chantent bien.
Voilà, un film léger, sympa, des mains en or à voir cette semaine à La Brèche et surtout aller faire un saut dans les salles de La Brèche parce que ce film vaut le détour, Pascal.
Oui, il y a ça et surtout il sera en sortie nationale.
Ah, c'est très important,
c'est important
ça aussi.
Oui, quand même. Donc voilà, je vous attends nombreux. Si vous voulez rigoler, vous détendre. Puis c'est ça en plus, absolument. Le rôle de la comédie, c'est vraiment y aller, ne pas réfléchir et puis se poser et puis rire.
Oui.
C'est chouette de rire.
Absolument. Eh bien, salutez Pascal. On enchaîne avec un autre rendez-vous. Alors là, on change totalement de registre.
Oui,
On va sur les super-héros. Transformers.
Transformers. Rise of the Beasts.
C'est joli.
Là, ça y est, réveil de la bête.
Ah, oh.
C'est ce que ça veut dire. Hein.
D'accord.
Et oui, c'est un film américain, vous pensez bien.
Oui, oui.
Et oui. Un film de 2h08, action science-fiction de Steven Cappell Jr.
2h08,
oui, oui. Ouais. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Anthony Ramos, Dominic Fishback, Luna Lorraine Velez, Dean Scott Vasquez, Sarah Stiles et Dominic Di Rosa. Je t'ai mis l'Italie à la fin quand même, parce
alors
que
là,
lui là.
Il s'est peut-être trompé de studio.
Pas du tout.
Ah bon.
Non, mais tu sais que les États-Unis sont une grosse terre d'accueil pour les Italiens. Hein.
Ouais.
Le quartier italien à New York.
Ah oui, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein.
La pègre était italienne. Ouais. Lupi Luciano était italien. Tu sais, c'était le pote à Sinatra.
Ouais. Oui. De Niro.
Et oui, voilà. Ça aussi. Transformers, The Rise of the Beast renoue avec l'action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous amène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, donc les Maximals, se joindront aux Autobots dans l'éternelle bataille qu'ils livrent face aux Decepticons.
C'est
oui
quoi,
monsieur, ça s'appelle comme ça, les méchants.
Ah.
C'est les méchants.
Ah, je suis rassuré.
Oui, ceux qui sont pas cool et qui veulent toujours détruire la Terre. C'est usant, hein, détruire la Terre.
Répète-moi, ça s'appelle comment ?
Decepticons.
Oui, c'est original.
C'est vrai, ça te fait rire, Jacques.
Voilà.
Il s'appelle comme ça.
D'accord.
Je n'y peux rien. Alors, c'est le 7e film Transformers. C'est vrai que moi, quand j'ai passé les premiers ont cartonné à La Brèche.
Un paquet, hein, ouais.
Oui. Donc, Transformers Rise of the Beasts est le 7e film Transformers après Transformers donc en 2007. Transformers 2, La Revanche en 2009. Transformers 3, La Face Cachée de la Lune en 2011. Transformers, L'Âge de l'Extinction en 2014. Transformers, The Last Night en 2017. Et Bumblebee pardon, en 2018. C'est une véritable saga. Donc le blockbuster est un reboot à la saga de Michael Bay et une suite de Bumblebee qui se passait dans les années 80. S'inspirant donc de la série d'animation Animutants, le long métrage met en scène pour la première fois les Maximals, Predacons et Terrorcons. Ce n'est pas un gros mot. Il a par ailleurs été pensé comme le premier volet d'une nouvelle trilogie. Alors après Shia LaBeouf, Mark Wahlberg et Hailee Steinfeld, c'est Anthony Ramos qui campe le héros de ce nouveau film Transformers. À noter que ce jeune comédien a pris part à une célèbre franchise via le blockbuster Godzilla 2, Roi des monstres. Prochainement, il sera à l'affiche de Twisters, suite du film catastrophe culte de 96 avec Ellen Hunt et Bill Paxton. Donc, après Michael Bay, donc Transformers 1, 2, 3, 4 et 5 et Travis Knight pour Bumblebee, c'est Steven Caple à qui l'on doit notamment Creed 2 qui s'attaque à la mise en scène de ce préquel de Transformers. Alors, présent depuis Transformers 2007, Peter Cullen reprend la voix d'Optimus Prime dans Transformers Rise of the Beast. Il est le seul acteur de ce nouveau film à être au casting des autres Transformers. Alors évidemment, c'est une saga super lucrative. Transformers a rapporté 708 millions de dollars dans le monde. Alors, il n'est pas toujours, tu sais qu'à chaque fois, les Américains, c'est leurs millions.
Mais oui,
faudrait qu'ils me donnent le tarif.
C'est pas les mêmes chiffres.
Ouais, mais moi, j'adorerais qu'ils me donnent le tarif moyen du prix aux États-Unis. Et moi, je te convertis ça en spectateur. Et ça, ça parle un peu plus. Donc voilà, évidemment, ça rapporte des sous, mais aussi, c'est aussi un jouet. Transformers, c'est trop dit à la base.
Ah oui,
c'est vraiment des personnages que tu transformes.
Ils ont décliné, ouais, d'accord.
Et ouais, ils se transforment en bagnole, en bus, en camion, en avion, en tout. Donc, Travis Knight était pressenti pour jouer ce rôle. Donc, lorsque le projet en était à ses débuts, le réalisateur de Bumblebee, Travis Knight, était pressenti pour mettre en scène ce 7e Transformers. Donc, Ron Perlman est de la partie. Tu vois qui c'est, Ron Perlman ?
Alors ça me parle, oui.
Il a joué nom préhistorique dans La guerre du feu de Jean-Jacques Hano.
Ah oui, d'accord.
Quand il était tout jeune. C'est un des personnages principaux du film.
Et puis c'est surtout celui qui a joué aussi dans Le nom de la rose.
Exactement.
C'était le père ?
Ah, oh, je sais plus. je m'en souviens plus. Il jouait aussi le tireur d'élite dans Enemy at the Gates. Toujours de Jean-Jacques Hano.
Stalingrad.
Ouais, exactement, Stalingrad. Mm-hmm. Voilà qui est Ron Perlman. De toute façon, quand tu le vois, c'est un visage, Ron Perlman. C'est une gueule. Hein.
Ouais.
Il est vraiment. Et puis, il a joué plein d'autres rôles, entre parenthèses. Comment il s'appelle, la bestiole toute rouge avec des cornes ? Oh, je sais plus comment il s'appelle, le personnage fantastique de BD.
Ah. Oh, je ne sais plus.
Oh, je sais plus comment il s'appelle. Donc Ron Perlman a été choisi pour doubler une machine appelée Optimus Primal, un Transformer qui a l'apparence d'un gorille géant. Il s'agit de l'ancêtre préhistorique du commando des Autobots Optimus Prime. Voilà un petit peu pour vous éclairer. Alors, il y a Ophélie Winter et MC Solar de la partie. Oui, vous ne le saviez pas. Oui.
Ophélie Winter,
oui.
Elle revient.
Il y a même Dorothée.
Ah oui, quand non.
Je déconne pas.
Ah bon.
Attends, je reprends mon papelard. Dorothée a prêté sa voix à Erasor, ce faucon majestueux qui n'a pas peur d'opérer seul et de voler sans renfort face à un danger certain. Sa présence souvent invisible est un réconfort constant. Un retour aux sources pour celle qui avait débuté sa carrière au cinéma devant la caméra de François Truffaut et qu'on avait pu revoir récemment pour une apparition dans le Nicky Larson de Philippe Lachaud.
D'accord.
Ophélie Winter et MC Solar, la chanteuse et actrice Ophélie Winter prête sa voix à un personnage de Transformers. L'icône des années 90 interprète aussi vocalement le robot nommé Arcy. Selon elle, Arcy est courageuse, intelligente, fiable et légèrement badass. A noter que l'ex-compagnon d'Ophélie, MC Solar, interprète la chanson du générique « Tout se transforme ». C'est rigolo comme nom.
Ah oui, c'est
tout
bien.
Tout se transforme. Et oui, les Transformers, voilà. Pour vous éclairer.
Alors j'ai retrouvé le nom du père, le père Salvatore.
Mais c'est vrai, oui. Salvatore, c'est ça.
Hein?
Oui.
Stupido.
Ouais.
Fing.
C'est pas le père, Salvatore, c'est le frère.
Oui, au frère.
Oui.
Oui, c'était pas le père, oui.
Ouais. Il parlait plein de langues.
Ah oui, c'est impressionnant.
Ouais.
Et à la fin, le pauvre, il finit tragiquement.
Il finit sur le bûcher.
Sur le bûcher, il soufflait.
Il est condamné par Bernard Dogui.
Ah ouais.
Le pire inquisiteur qui puisse exister.
Bernard Dogui.
Oui, avec Torquemada.
Oui, c'était... C'était
l'horreur.
Avec un excellent Michael Lonsdale.
Michael Lonsdale, bien sûr.
L'abbé.
Ouais. Sean Connery, quand même.
Ah oui, c'était l'enquêteur, lui.
Sean Connery, oui. On en avait parlé une fois. D'ailleurs, il était en fait
Guillaume de Basque.
Et Christian Slater.
Ah oui.
Qui jouait le frère.
L'associé, quoi.
Ouais.
Enfin, l'associé, le jeune apprenti.
Non, c'est l'apprenti. L'apprenti, oui. Christian Slater, oui.
Guillaume de Basque.
Oui. Guillaume de Baskerville.
Oui.
Alors c'est marrant parce que ça fait penser au film de.
Oui, les chiens de Baskerville.
Le chien de Baskerville, de Agatha Christie.
Exactement.
Ah, ouais, que j'ai vu en noir et blanc.
Ouais.
Un film terrifiant.
Ah oui, non.
Qu'on pouvait voir au cinéma de minuit.
Oui.
Terrifiant. Moi, j'ai eu peur.
Ah oui.
Moi, j'étais scotché. Ah oui, mais ça fait super peur. Tu sais, quand il arrive à un moment dans les ruines du château, ouais, où il se fait attaquer par le chien et tout, ouais, là, t'es flippé, hein, il fait nuit et tout. En plus, t'es chez toi, c'est les cinémas de minuit, il fait nuit, t'es dans, ouais, l'ambiance totale. En plus, t'es enfermé aussi dans ton...
Ouais. Oh, ouais, ouais. Ouais. Voilà, donc Transformers, on revient un petit peu à nos moutons, Pascal.
Hein, voilà,
hein,
oui, on était, oui, un peu égaré. On était parti au 13e siècle, c'est pas bien. Voilà, donc ça sera à découvrir, La Brèche. Donc Transformers, donc cette semaine, en sortie nationale,
ouais,
en 2D.
Et en 3D.
En 3D.
D'accord, à vos
lunettes. Vous avez le choix, oui, oui, oui.
Très bien. On va enchaîner avec un autre rendez-vous. L'Homme debout, Pascal.
Oui, oui, on va parler d'un... on va revenir en France.
Ah oui, très bien.
Ça, c'est plus calme, moins agité que les Transformers. L'Homme debout, film français d'1h26, une comédie dramatique de Florence Vignon. Alors, Florence Vignon, c'est son deuxième film. En 1999, elle a réalisé le premier pas, c'est un moyen métrage, on va dire, de 51 minutes. Hein. Je ne pense pas qu'il soit sorti au cinéma. Dans tous les cas, c'est son deuxième film, mais surtout son premier long métrage. Et comme à chaque fois, on lui souhaite bonne chance.
Eh oui, exactement.
Bonne chance, Florence, parce que franchement, c'est à chaque fois, c'est la fièvre, on ne sait pas. Et puis, tu sais, là, elle sort son film sur un créneau de l'année qui n'est pas franchement évident. C'est le mois de juin.
Oui.
Comme je l'ai dit. Hein,
les sorties, tu sais, c'est pareil, oui, hein, oui, c'est un petit peu stratégique. Hein.
Voilà. Au niveau des acteurs, on va retrouver Zita Enro, Jacques Gamblin,
le retour,
oui, Cédric Moreau, Tatiana Gousseff, Thomas Chabrol, Vincent Jaspar, Bruno Abraham Kremer et Karima Amarouche. Donc pour décrocher un CDI dans l'entreprise de papier peint qui vient de l'engager, Clémence Alfaro doit pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée. Il faut rajeunir l'image de la petite boîte. Mais Giffard refuse. Son travail semble être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie. Coincé entre la perspective d'un avenir professionnel qui lui permettrait de fuir ses problèmes familiaux et l'affection inattendue qu'elle éprouve pour le VRP, Clémence va devoir choisir. Donc principalement connue pour son travail de scénariste, notamment pour Stéphane Brisé, hein, Florence Vignon avait mis en scène un court-métrage en 1999, donc le premier pas. Avec L'Homme debout, elle réalise son premier long-métrage. Après une première vie d'actrice assez brève, j'ai écrit de nombreuses années, nous dit-elle, pour Stéphane Brisé. Puis ensuite pour d'autres réalisateurs, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, comme Cyril Meneghan récemment, se rappelle-t-elle. Le désir de passer derrière la caméra me taraudait depuis un certain temps. J'ai sans doute attendu d'être vraiment prête. Ce sentiment de nécessité nous permet d'abattre tous les murs, d'imposer notre regard, de trouver notre liberté. Alors c'est une adaptation d'un roman avec L'Homme debout, donc Florence Vignon adapte le roman Il déserte de Thierry Beinstingel, j'espère que je n'écorche pas son nom. Un livre qu'on lui a proposé d'adapter, ce qui a beaucoup stimulé la cinéaste dans la mesure où elle prenait à ce moment du recul par rapport à son activité d'écriture. Et comme elle nous dit, j'ai accepté à condition que ça devienne mon premier long métrage. J'ai fait mon coming out. Il y avait dans le roman de Thierry Beinstingel tout ce que j'aime, des personnages solitaires et paumés, un mélange de mélancolie, d'absurdité, de pathétique et de loufoquerie. Une matière à cinéma et l'occasion de travailler les thématiques qui me sont chères, celles du libre arbitre face au déterminisme social et familial, du sens qu'on donne à nos existences, à la question lancinante qui nous dit « Est-il trop tard pour changer de route ?» Donc L'Homme debout donc, traite des rapports de force et de domination dans le monde du travail, Florence Vignon précise. Chacun, pour sauver sa peau, est poussé à écraser l'autre dans une sorte de chaîne alimentaire cruelle et impitoyable. Mais dans le film, la pression ne vient pas seulement de l'entreprise, elle vient aussi de la sphère familiale, surtout pour Clémence. Henri, lui, résiste en devenant son propre bourreau, refusant de voir qu'il s'accroche à son travail par peur du vide et de la solitude. Pour Clémence et Henri, sous pression, il y a une lutte entre leur être social et leur vérité intime. C'est en acceptant que ces deux parties d'eux-mêmes se rejoignent que Clémence et Henri trouveront la force de tout remettre en question. Et c'est vrai que ça se pose des bonnes questions, tu sais, des fois t'as envie. Des fois, tu sais, t'as envie de barrer, de tout laisser tomber, tu sais, faire autre chose.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est tous tenus par la dette, les emprunts, les sus, les machins, les trucs.
Oui.
On a peur
de
se retrouver dans le caniveau.
C'est pas une inconnue, mais de changer de vie en quelque sorte, c'est aussi un sacré pari, quoi.
C'est ouais, mais après, moi, tu trouveras toujours autour de toi des gens qui l'ont fait, qui te disent waouh. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Ils le disent tous.
Oui, mais je pense que c'est aussi quand on arrive à un certain âge, on,
tu aspires à des choses plus tranquillou.
Exactement. Nous sommes les témoins du temps.
Ah ouais, oui, carrément. Donc Florence Villon a rencontré Jacques Gamblin il y a quelques années à l'occasion d'un festival. Et le comédien lui avait dit faire partie des spectateurs que Le Bleu des Villes avait marqué. Le premier film de Stéphane Brisé dans lequel la réalisatrice jouait le rôle principal et qu'elle avait co-écrit. Mais je n'ai pas pensé qu'à lui tout de suite pour Henri Giffard. Malgré l'immense acteur qu'il est, je le trouvais trop jeune pour le rôle. Je voulais éviter par-dessus tout que la relation entre Clémence et Henri soit sous-tendue d'une ambiguïté, car s'il est question d'un lien, il est évidemment filial, confie Florence Vignon. Ce vieux VRP qui a raté son mariage et surtout son existence de père va progressivement trouver un peu de réparation avec Clémence, comme la figure d'une fille qu'il n'aurait pu voir. Le film a mis le temps à se monter, le temps à travailler pour nous, et Jacques s'est finalement imposé comme une évidence. Voilà un petit peu pour vous éclairer.
Sur l'homme debout.
Sur le dernier film, donc oui, de Florence Vignon. Et ça sera son premier long métrage, donc L'homme debout.
Avec Jacques Gamblin qui fait son retour sur les écrans. Et on va le retrouver justement sur la bande-annonce tout de suite.
Bon, on a un gros problème avec Giffard. Vous vous rendez compte qu'il a toutes ses annuités, mais qu'il s'accroche. Petite retraite tout en douceur. Il arrivera à me le convaincre, hein?
Tu le connais bien, toi, Giffard? Spécial. Très spécial.
Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mademoiselle Alfaro. Mais c'est non. Désolé. Je fume beaucoup.
Et vous avez jamais pensé à ralentir?
Oh bah, j'ai quand même beaucoup diminué.
Là, nous avons un magnifique motif d'inspiration végétale.
Non, mais je parle du travail.
Pourquoi vous voulez que je ralentisse le travail?
Venez toucher la qualité.
Que vous imaginez peut-être que je vais me taper l'ancêtre, là, jusqu'à ses 70 piges? Parce que c'est la loi, c'est ça?
Il va pas revenir à la charge, au moins, rassurez-moi.
Non.
Je l'ai bien vu, son manège, mais ça se passera pas comme ça.
Il est bon, hein, mademoiselle? Il m'a à chaque fois, le coquin.
C'est légal. Merde!
Tu veux pas ralentir un peu, dis? Toujours à courir après le chiffre.
Il n'y a aucune honte à ça d'avoir envie de se reposer.
J'ai cru à un moment que vous étiez différente. Finalement, je me suis trompé. Vous m'avez déçu. Faites-le bosser. Crevez-le. Qu'il n'en puisse plus. Je sais que vous pouvez y arriver. Je le sais. Vous voulez rester dans la boîte, oui ou non?
Voilà, l'homme debout.
Il n'y a pas la réponse, t'as vu?
Oui, c'est ça, oui, on normal, laisse hein. Dans le suspense.
C'est à vous à venir le découvrir. Alors juste pour le titre, quand même, pour revenir, donc pour Florence Vignon, l'homme debout, c'est un choix, son titre, et celui qui a quitté son statut préhistorique pour devenir un humain debout. Il s'agit d'une invitation à la mise en mouvement, à la révolte.
Ah oui.
Mais c'est aussi cette figure de VRP qui veut tenir sur ses jambes jusqu'au bout, alors que tout le monde s'oppose à ses principes. Être libre, c'est compliqué.
Oui, surtout de nos jours.
Et oui.
Ouais. Et voilà, on vous invite
à la Brèche.
Ouais, absolument.
Semaine,
oui. Bon film français sur les écrans de la Brèche. Et on va enchaîner avec un autre rendez-vous. Alors là, c'est pareil. On va découvrir une production espagnole. Ramona fait son cinéma. Alors, Ramona fait son cinéma. De quoi s'agit-il?
Film espagnol.
Oui.
Ramona fait son cinéma, film espagnol d'1h20, comédie romance d'Andrea Bagné. Au niveau des acteurs, on va retrouver Lourdes Hernandez, Bruno Lastra, Francesco Carril, Agustín Mateo, Rafael Ordorica. Pourquoi tu rigoles?
Non,
Sergio Huguet.
Ça sonne bien l'Espagne.
C'est l'Espagne.
Et oui.
De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille d'une première audition, elle fait une rencontre pleine de promesses. Elle ne se doute pas que celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes. Alors d'où vient ce projet, donc la genèse du film? Donc la relation entre réalisateur et acteur m'a toujours fasciné, nous dit la réalisatrice. Pourquoi les acteurs sont-ils choisis? Quelle part d'eux-mêmes se retrouve dans leur personnage? S'interroge Andrea Bagné. L'histoire de cette jeune femme qui refuse un premier rôle car elle sait que le réalisateur est amoureux d'elle s'est imposée à elle. Je l'ai trouvée si courageuse et charmante que j'ai commencé à écrire mon scénario autour de cet événement comique. Donc la réalisatrice a cherché pendant des mois l'interprète de Ramona. Elle est un jour tombée par hasard via ses recommandations YouTube sur une vidéo de Lourdes Hernandez qui interprétait une version acoustique d'une de ses vieilles chansons. Cette dernière est en effet également chanteuse sous le pseudonyme de Russian Red, le russe rouge. Et comme la réalisatrice nous dit, en voyant cette vidéo, je me suis dit, c'est Ramona. En continuant mes recherches, j'ai appris qu'elle vivait à Los Angeles et qu'elle voulait devenir actrice. Je lui ai envoyé le scénario et elle a tout de suite dit oui. Il fallait que je tombe amoureuse de Ramona pour pouvoir la filmer. Et avec Lourdes, ce fut instantané. Elle avait une énergie très particulière et attirait la caméra. Charismatique et fragile à la fois. Je suis très fier que Lourdes fasse son grand retour avec Ramona, fait son cinéma, après quelques années sans actualité, explique Andrea Bagnier. Donc la réalisatrice a imaginé Ramona comme un personnage de Billy Wilder et ses références les plus évidentes étaient en noir et blanc. La garçonnière Manhattan, Frances A. Donc je voulais rendre hommage au film que j'aime et faire de Ramona un personnage important. Pas petite et indépendante, mais grande et classique. Pour moi, l'acte de filmer est un geste poétique en soi. C'est en partie pour cela qu'elle a choisi de tourner en 16 mm. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça.
16 mm.
Ah oui, là.
D'accord. Et techniquement, ça marche comment?
16 mm, mais tu sais,
caméras.
Non, mais tu sais, c'est le format familial, le 16 mm.
Ah oui.
Tu sais, à une époque, je sais pas, dans les années 50, ça 60, 70, ouais, beaucoup de gens partaient en vacances avec une petite caméra en 16 mm. Et c'est quelque chose qui faisait développer après.
Lorsqu'on parle de 16 mm, ça veut dire que ça a été filmé avec un appareil.
Spécifique. 16 mm. Oui. On n'est plus sur une caméra numérique, on revient un petit peu en arrière. Et je trouve ça chouette parce que justement ça apporte du grain. Ouais. Ça apporte du grain à l'image et puis surtout que les lumières ne doivent pas être les mêmes. Enfin, je veux dire, la conversion des lumières n'est pas la même. Donc, non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Mais qui a tourné en 35 mm? Eh bien, c'est Maïwenn.
Ah oui,
qui a tourné son
on en parlait
film.
Tout à l'heure. Ouais.
Oui, Jeanne Dubarry a été tournée en 35 mm. Oui, oui. Mm. Il y a des gens qui préfèrent revenir ce qu'on appelle chez nous dans le jargon le support chimique, comme on dit.
Oui.
Donc le film, à l'intérieur du film, lui a permis d'ajouter de la couleur. La couleur, comme elle nous dit, est devenue fiction. Le noir et blanc, la réalité. Nous nous sommes amusés à aller au bout de ce que le cinéma et le jeu sont. Une fiction nourrie de beaucoup de vérité. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la dernière création donc, de Andrea Bagnier.
Voilà,
Ramona fait son cinéma.
Film en noir et blanc?
Non. Je pense qu'il est en couleur quand même.
Ah bon, d'accord. Et en version originale sous-titrée pour les amateurs.
Toujours, bien sûr.
Ah, voilà, pour ceux qui souhaitent. Eh bien, on va revenir sur une actrice. On la connaît forcément. C'est une actrice qui a fait son petit bout de chemin déjà, et il en reste encore. Vous la connaissez forcément.
C'est vrai.
On la connaît, je dirais, sous des aspects. Hilarant, on la connaît aussi sur des rôles un petit peu plus sérieux, plus durs aussi. Une artiste complète et qui fait également du théâtre et ça serait bien sûr un honneur de parler de Josiane Balasko.
Ouais, elle est allée chercher un petit peu pratiquement tous les registres, hein. C'est vrai que on la voit plus dans les années 70-80 dans les rôles un peu humoristiques.
Ouais.
Mais on la vit aussi dans les rôles semi-dramatiques. Enfin, je sais pas, on parle du film d'Alain Chabat, donc Gazon maudit.
Oui.
Où elle est excellente aussi dedans. Quoi. Et puis le film est toujours efficace. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Franchement,
on passe un excellent moment.
Ouais. Et puis ça brosse quand même pas mal de problèmes sociaux et ça les met un petit peu à la lumière et voilà le film je pense pas qu'il vieillira je pense pas mais c'est un excellent film d'Alain Chabat je pense que c'est presque peut-être un de ses meilleurs quoi.
Oui, avec des très très bons acteurs aussi voilà puis on évoquera tout à l'heure la filmographie de Josiane Balasko.
Absolument. La biographie. Donc, non, on va parler de la filmographie.
Allons-y alors.
Donc, elle est actrice, scénariste et réalisatrice. Elle s'appelle Josiane Balaskovitch.
Oui.
Je savais pas ça.
Alors, moi, si, je l'avais noté.
Elle est née le 15 avril 1950 à Paris, ce qui nous fait une jeune fille de 73 ans.
Très bien. À 73?
Oui.
Que le temps passe vite.
Ah ben oui, attends, mais je suis derrière nous. Le temps, il nous pousse.
On est un petit peu plus loin quand même. Bon,
oui.
Bon, on a un petit peu de marge.
Ouais, un brin plus, on va dire.
C'est ça.
Donc, Josiane Balasko, donc c'est 48 années de carrière, 105 films, 3 récompenses.
Ah oui, 3 récompenses.
Oui, oui. En 96, elle a reçu le César du meilleur scénario pour Gazon Maudit.
Ah oui, tiens.
En 96, toujours, elle a reçu aux Lumières de la Presse le prix du meilleur scénario pour Gazon Maudit, évidemment. Et en 2021, elle a reçu le César d'anniversaire. Donc voilà, c'est 3 récompenses. Je trouve que c'est assez peu, quand même.
Ouais, parce qu'elle a joué dans des films hyper connus.
Oui. Ah oui, absolument, oui.
Et qui... Alors,
alors, au niveau de la réalisation, évidemment, elle a réalisé 8 films.
D'accord.
Son premier, c'est Sac de nœuds, en 1984.
Ouais.
D'Isabelle Huppert, avec Farid Chopel et... Isabelle Huppert et Farid Chopel. En 87, elle a réalisé Les Keufs.
Ah oui, c'est vrai qu'il
y avait... Ah oui, avec Isaac film. De Bancolé et Tiki Olgado.
Ah oui, c'était bon ça.
En 91... Un film assez marrant, Daniel Auteuil en diable. Ma vie est un enfer.
Ah oui, c'est vrai.
Avec donc Daniel Auteuil et Richard Berry. En 94, La Consécration. Un film avec Victoria Abril, Alain Chabat.
Ah oui, Gazon Maudit, oui.
En 97, un grand cri d'amour avec Daniel Sicaldi et Richard Berry. En 2004, elle va réaliser L'ex-femme de ma vie avec Thierry Lhermitte et Karine Viard. En 2007... Elle réalisera Cliente avec Nathalie Baye et Isabelle Carré. En 2013, elle réalisera Demi-sœur donc avec Michel Blanc et Brigitte Rouen. Voilà, ça, ce sont les 8 films qu'elle a réalisés. Voilà, en tant qu'actrice, évidemment, il y en a 105 en tout. Hein. Alors, je vous ai pris vraiment ce que vous connaissez le plus.
Ou qu'on a vu, revu.
Parce qu'effectivement, même si nous, on ne les a pas vus au ciné, ils sont quand même passés X fois sur les ondes. Ces films des années 80, début 90.
Oui.
Alors évidemment, Josiane Balasko, on va la voir apparaître pour la première fois au grand écran, en 71, dans un film de Jean-Jacques Grandjean, Défense de jouer. Ensuite, on va la retrouver en 77 dans Nous irons tous au paradis, d'Yves Robert, avec Claude Brasseur, Victor Lanoux et Guy Bedos. Tu l'as vu celui-ci?
Oui.
Je crois qu'on l'a tous vu d'ailleurs, tous qui sont de notre génération. Oui. 78. Alors là, c'est le choc.
Ah, ben c'est Les Bronzés, ça.
Absolument, Les Bronzés de Patrice Lecomte avec Thierry Lhermitte, Christian Clavier. Et ben voilà, c'est toute la troupe du Splendide que je n'énumère pas.
Avec une chanson, bien sûr, célèbre de Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun.
Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais.
Pour le premier.
Ah, ouais, d'accord.
Et parce que pour Les Bronzés, c'était Bachelet qui avait signé. Bachelet qui avait signé la chanson.
C'est vrai.
Et c'était notamment Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, qui chantait.
Ah.
Sur le titre Des Bronzés au ski.
D'accord.
Voilà.
En 78, Les Bronzés. 79, Les Bronzés font du ski.
Voilà.
De Patrice Lecomte, toujours avec les mêmes, évidemment. Ouais. En 81, Les Hommes préfèrent les grosses.
Ah oui.
De Jean-Marie Poiré avec Louis Rigaud et Dominique Lavanant.
Oui, c'est un film marrant.
C'est un film marrant, oui. En 82, Le Père Noël est une ordure. De Jean-Marie Poiré avec Anémone et Marie-Anne Chazelle.
Ouais, excellent film.
Ouais, tiré d'une pièce de théâtre qui a cartonné. Ouais. En 85, Nuit d'ivresse.
Ça aussi.
Ah.
Ça, c'était bien ça.
Et oui.
Avec un Lhermitte.
De Bernard Noël avec Gérard Martin, Thierry Lhermitte. Oui, il y en avait plein.
Ouais. Ça se passait le soir d'un réveillon de la Saint-Sylvestre.
Ouais.
Tu te rappelles pas?
Je me souviens vaguement du scénario. Ça dérape pas dans un lit?
Si, comme ça.
Ouais. Il faut que je me descende dedans.
Il y a un jeu télévisé. C'était pas mal. Avec Michel Blanc, d'ailleurs.
Avec Michel Blanc, oui. En 97, Didier d'Alain Chabat. Et tout à l'heure, je disais Gazon Maudit d'Alain Chabat. Non, pas du tout. Hein. Je dis une grosse bêtise. C'est Josiane Balasko qui a réalisé le film. Et c'est Alain Chabat qui joue dedans.
Ah oui. Ouais.
Donc là, dans le film Didier, c'est un film d'Alain Chabat dans lequel elle joue. Avec Caroline Salier, Chantal Lobby, Jean-Pierre Bacri. Un gros carton au cinéma. Un ovni. Hein.
Oui.
Didier, c'est un ovni du cinéma français. Cela,
c'est clair.
Franchement, le projet est couché sur papier. Ça donnait déjà le vertige. Alors j'imagine la réalisation. Il s'en sort super bien. Ouais. Alain Chabat, évidemment, qui joue le rôle d'un chien humain.
Ouais.
C'est quelque chose quand même. C'est, et j'aime bien justement ce genre de challenge, parce que ça aurait pu très bien capoter. Qui aurait pu d'ailleurs jouer autre chose que... qui aurait pu remplacer Alain Chabat? Je vois personne, personnellement. En 2007, elle jouera dans L'Auberge Rouge de Gérard Kravzik avec Christian Clavier et Gérard Junior. Alors ça, c'est un remake d'un film où jouait Fernandel.
Ah bon?
Oui. De jouer Fernandel. Ça, c'est un film peut-être des années 40 ou 50 hein, que j'ai vu.
D'accord.
Et pourquoi l'Auberge Rouge? Alors, c'est une histoire vraie, l'Auberge Rouge. C'est ce qu'elle a existé. Elle existe toujours, l'Auberge Rouge, entre parenthèses. Les gens la visitent. C'est un endroit où effectivement les gens disparaissaient.
Ah ouais.
Il y avait un couple qui s'occupait de l'auberge, avec un homme de seconde main, on va dire, qui s'occupait voilà, de la grange et des chambres, tout ça, et les gens disparaissaient les uns après les autres. Jusqu'au jour, il a eu un peu trop. Et là, effectivement, on a commencé à mener l'enquête, et puis remonter un petit peu les pistes, puis comme c'était des gens qui s'étaient enrichis, on va dire, inconsidérément, et qui se retrouvaient un petit peu à la tête, sûrement d'une petite fortune, parce qu'ils avaient acheté quand même du terrain, des choses comme ça. Et bon, on les accuse de tout, en fait. Quand j'ai lu un petit peu le procès, parce que finalement, on n'a pas trouvé de cadavres dans l'Auberge Rouge. On a trouvé des cadavres autour, et puis des gens qui avaient disparu. Donc il s'est enclenché un procès où ils ont tous été condamnés à mort. Et guillotinés devant l'Auberge Rouge. Parce qu'au 19e siècle, ah oui. C'était à la fin du 19e, on châtiait les gens sur le lieu du massacre.
D'accord.
Donc la guillotine a été apportée devant l'Auberge Rouge. Et ainsi, on a guillotiné ces pauvres gens. Ces trois personnes qui ne devaient pas être quand même blanches comme neige, hein, mine de rien. Donc l'Auberge Rouge, ouais. Mais si vous avez l'occasion, regardez un petit peu le film avec Fernandel, si vous arrivez à le trouver. Moi je l'ai trouvé une fois, je ne sais plus où, j'ai réussi à le voir. Et en 2016, donc, Retour chez ma mère. Éric Lavenne avec Alexandra Lamy et Mathilde Seigné. Voilà un petit peu pour vous parler de sa filmographie.
On se rappelle aussi qu'elle a tourné avec Coluche, Josiane Balasco,
oui.
Le maître d'école, 1981 avec Berry, enfin le film de Berry,
oui.
C'était Madame Lajoie.
Ah, je m'en souviens moins de celui-là.
Madame Lajoie, et c'était donc le maître d'école où Coluche est un maître d'école en fait.
Ouais, ouais.
Hein. Tu te rappelles de ce film?
Je me souviens pas de ce film-là.
Oui, il était jeune enseignant et c'était difficile de se faire respecter dans une classe d'école. Et avec des collègues, notamment Josiane Balasco, qui est une prof très rigide.
Ouais.
Voilà, 1980, film de Berry. Alors Josiane, d'où viens-tu?
Josiane, donc évidemment, d'où viens-tu?
De Paris.
Fille, tu vas voir. Fille d'un patron de bistrot yougoslave qui décède alors qu'elle est adolescente, Josiane Balasco est élevée par sa mère et sa grand-mère.
D'accord.
Très jeune, elle rêve d'embrasser une carrière artistique. Elle commence par s'intéresser au dessin en intégrant une école de graphisme, puis à l'écriture en rédigeant des nouvelles de science-fiction, et opte finalement pour la comédie en suivant les cours du théâtre de Tania Balakova. Au milieu des années 70, Josiane rejoint l'équipe du Splendide en tant que remplaçante de Valérie Mérès.
Elle était remplaçante au début.
Parallèlement, elle monte ses propres spectacles et incarne Ginette Lacaze dans une pièce écrite par Coluche, à qui elle est souvent comparée.
Mais oui.
Elle apparaît à l'écran en 73 dans L'An 1 et trouve son premier rôle important dans Les Petits Câlins de Jean-Marie Poiret en 78. Développant une image d'anti-sexe symbole, l'actrice accède à la notoriété en même temps que ses camarades du Splendide grâce au succès des comédies Les Bronzés en 78, puis Les Bronzés font du ski en 79, sans oublier Le Père Noël est une ordure en 82, que j'hésitais tout à l'heure, dans lequel elle incarne l'exaspérante Madame... J'adore, elle a vraiment un nom...
Mais je ne me rappelle plus. Madame... François, non.
Musquin.
Ah, Musquin, oui.
Madame Musquin. Les membres de la troupe prennent bientôt des chemins séparés, mais cette aventure collective fait l'objet d'un culte durable, puisqu'un troisième volet des Bronzés voit le jour en 2006. Gigaflop.
Oui.
Patatras.
Ouais, c'était... Enfin, rien à voir.
Tout le monde dans les orties. Oui, non, bah ça n'a pas fonctionné, évidemment.
Ouais.
À travers les films comme La Smala en 84. Ah, c'est vrai, j'ai oublié celui-là.
La Smala
était chouette. Oui, celui-là, je m'en souviens. Ou Nuit d'ivresse, évidemment, en 86. Josiane Balasco impose à l'écran un personnage de femme ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires, comme elle les déclare à la revue Studio. En 89, grâce à Blier, le provocateur, elle joue le rôle d'une secrétaire pour qui Depardieu quitte Carole Bouquet dans « Trop belle pour toi », l'une de ses prestations les plus mémorables. L'actrice multiplie dès lors les rôles de composition, militante exaltée dans « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes », c'est vrai, je l'ai oublié celui-là, en 93, ouais. Alcoolique et pathétique dans « Un crime au paradis », oh, je suis passé à côté, avec Jacques Villeray. Grand film. Ouais. Grand film. C'est vrai qu'on l'a passé. On l'a passé à la brèche, celui-ci. Celui-ci a fonctionné. Elle surprend encore en incarnant en 2003 une femme flic à la dérive dans Cette femme-là. Un polar de Guillaume Niclot qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice. Très présente sur les écrans, la comédienne incarne aussi des rôles comme Marguerite Duras dans J'ai vu tuer Ben Barka en 2004, la célèbre psychanalyste dans le téléfilm Françoise Dolto, Le désir de vivre en 2008 ou encore La concierge discrète et solitaire du Hérisson en 2009, l'adaptation du roman de Muriel Barberi. Josiane Balasko n'en oublie pas pour autant de jouer la comédie, loin de là, en tournant pour Gérard Kravzik dans La vie est à nous en 2005, L'auberge rouge en 2007, Jean-Michel Ribes donc, au musée bas en 2008, ou Gabriel Julien Laferrière dans Neuilly sa mère en 2009, ou pour Guillaume Niclot, pour Holiday en 2010, ou Jamel Bansala dans Le Raid en 2002, ou Beurre sur la ville en 2011, ou Alexandra Leclerc dans Maman en 2012. Parallèlement aux comédies Demi-sœur, Les Gazelles, Le Grand Partage, Joséphine s'arrondit, ou Retour chez ma mère, Neuilly sa mère qui constitue son genre de prédilection, Josiane Balasko apparaît également dans des drames. Parmi eux, Volontaire grâce à Dieu et L'Intervention. En 2019, elle est à l'affiche de deux comédies populaires, All Inclusive, où elle retrouve Thierry Lhermitte. Et là, ça c'est un film de Fabien Otoniente. Et celui-là, je ne l'ai pas noté parce que franchement, il n'est pas bon du tout. Donc pour finir, donc en 2019, donc elle est à l'affiche de deux comédies populaires, donc All Inclusive, où elle retrouve Thierry Lhermitte, et Beaux-parents, où elle donne à nouveau la réplique à Didier Bourdon. Multipliant les prestations dans le registre comique, elle enchaîne avec bonheur des prestations remarquées dans L'Esprit de famille, ou alors C'est la vie, ou Un tour chez ma fille, ou Tralala, mes très chers enfants, et Des mains en or.
Ouais.
Dès le milieu des années 80, Josiane Balasko s'intéresse à la réalisation. Et ses deux premiers opus, donc Sac de nœuds en 85 et Les keufs en 89, témoignent de son anticonformisme et de son goût pour la satire sociale. Ce n'est pourtant qu'avec son quatrième long-métrage « Gazon maudit » en 1994, sur le thème alors tabou de l'homosexualité féminine, qu'elle obtient les suffrages de la critique et du public, ainsi que le César du meilleur scénario en 1995. Interprétant elle-même dans chacun de ses films des personnages hauts en couleur, Josiane porte ensuite à l'écran deux de ses pièces de théâtre, donc « Un grand cri d'amour » en 1998, « L'ex-femme de ma vie » en 2005, puis entame en 2008 l'adaptation de « Cliente », son roman, paru en 2005. En 2013, elle livre Demi-sœur qui ne se solde par un échec au box-office. Mais c'est pas grave, Josiane.
Ben oui.
C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. C'est,
absolument.
C'est, voilà, moi je reste confiant parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a une grosse carrière derrière elle et qui va l'avoir devant elle. Faut pas reprendre les bêtises que j'ai dit tout à l'heure.
Non, mais c'est
et
sûr.
On lui souhaite vraiment, vraiment du succès.
Voilà, et puis on salue aussi sa fille, hein, Marie-Lou Berry, qui mène aussi une belle carrière.
Ah oui, qu'on voit beaucoup moins par contre. Moi je la vois
ouais,
plus
on
dans les séries.
À un moment donné, elle est pas mal. Hein,
ouais, je crois qu'elle est revenue plus vers l'univers de la télévision.
Ouais.
Je la vois dans les séries, des choses comme ça. Je la vois apparaître.
Marie-Lou Berry, c'était donc la fille de.
Alors là, tu vas en dire, attends.
Bon, là. On posera la question à Josiane quand elle passera par la brèche, en tout cas. Et oui. Et avant de nous séparer, Pascal, tu avais une info à nous donner.
Et oui. Pourquoi ?
Très important.
Ouais. Alors, j'aurai un invité la semaine prochaine.
Ça, c'est bien.
C'est un grand cinéphile. C'est quelqu'un qui vient plusieurs fois au cinéma dans la semaine. C'est pour te dire que c'est quelqu'un qui dévore le cinéma. Et qui, il y a quelque temps, est allé faire de la figuration sur le tournage d'un film.
Ah ouais. C'est un foyer.
Oui, c'est un foyer, bien sûr. Qui est tiré du roman de Robert Merle, qui s'appelle Fortune de France. Et c'est ce téléfilm qui, en fait, c'est une série. C'est une série, hein, de Christopher Thompson. Hein, ça sera diffusé début 2024.
Hein. D'accord.
Donc ça s'appelle Fortune de France.
Et on le voit bien à l'écran, notre ami Foyen.
Ah, ça, je ne saurais dire. Mais tu sais, il y a le montage et tout. Hein, ouais. Même si t'es filmé, t'es pas sûr d'y être. Ouais. Hein, ça, c'est sûr. Donc, et c'est là où travaille actuellement Nicolas Duvauchel.
Ah oui, d'accord.
Nicolas Duvauchel est en Dordogne en ce moment. Si vous allez à Périgueux, au Sarlat, ben il se peut que vous le croisiez dans les rues. Parce que oui, effectivement, il va devenir un résident périgourdin pendant quelques temps ici. Je crois que le tournage fait 70 jours, il me semble.
Ouais.
Donc il y aura Nicolas Duvauchel, Lucie Debaille, Guillaume Couix, Grégory Fitoussi, Blandine Bellawar, Antoine Gouille, Simon Zampieri. Enfin voilà, il y a toute une pléiade d'acteurs. Mais... Je vous ai mis le synopsis.
Ah.
Nous sommes dans le Périgord noir, donc au château de Mespêche en 1557. Les guerres de religion menacent alors la France. Eh oui, c'est le début des guerres de religion. Je crois qu'il y en a 9, hein, guerres de religion. C'est une horreur. On dit guerre de religion, mais on peut aussi dire guerre civile. Ouais. Parce qu'évidemment, les Français tapaient sur les Français. Hein. Derrière les remparts du château de Mespèche, cerné par un monde dangereux, hostile et intolérant, la famille Siorac se bat pour sa survie et ses convictions. Jean, le père, est contraint de renouer avec la violence pour défendre son idéal. Isabelle, la mère, se bat pour exister dans un monde où les hommes font la loi. Pierre et François, les fils, entrent brutalement dans l'âge adulte, déchirés comme leur père, leur pays, entre la foi protestante de leur père et la ferveur catholique de leur mère. Il y a la vie d'une communauté, les maîtres et les serviteurs, les parents et les enfants, les épidémies, les adversaires, les batailles et les deuils, la science et les superstitions et les histoires d'amour. Un siècle bien sombre. Et c'est vrai, parce que pendant 50 ans, eh bien, ça sera les guerres de religion dans le royaume de France. Hein. Ici, ils ont laissé des traces. Hein. Tu n'as qu'à regarder un petit peu. Alors, ça sera vu plus après les guerres de religion, mais on va dire, ici, les armées royales ont défilé dans la région pour aller châtier les Huguenots qui sont retranchés, notamment à Moravel.
Ah oui.
Moravel a été rasé.
Ah oui.
Et je tiens à dire une chose, c'est qu'un jour, je suis tombé sur des archives, juste pour parler de Moravel. Alors évidemment, c'est le joli château que vous voyez là, au-dessus de la motte Moravel. Hein.
Oui.
Mais devant, vous avez des remparts qui datent certainement du 9e, 10e siècle, c'est-à-dire à l'époque de Charlemagne, on va dire. Hein. Mais aussi qui a été sûrement reconstruit au Moyen-Âge. Bon, alors, moi, j'ai vu des tours qui ont été poussées avec des tracteurs agricoles, ce qui n'est pas bien, ça je le sais. les restes des tours ont été poussés. Donc, on voit encore les assises des remparts. Moi, je me suis rendu un jour. Hein. J'ai vraiment fait le tour, hein, de la citadelle. On voit encore les portes d'entrée, parce qu'on voit les talus maintenant.
Ouais.
Les talus existent toujours. Hein. Mm-hmm. Et on voit les portes d'entrée de la citadelle. Il faut bien regarder dans la nature, hein, c'est vraiment caché. Et j'ai trouvé le texte qui raconte la prise de Moravel. Hein. Le nombre de coups de canon.
Ah bon ?
Oui, oui. 303 coups de canon.
Ah, c'est précis, ça.
Ils ont défoncé la muraille et ils ont pris la ville d'assaut la nuit. Je ne vous raconte pas le reste, je vous raconterai peut-être un jour et vous allez voir un petit peu ce qui se passe quand les murailles sont enfoncées à grands coups de canon et comment réagissent les gens qui sont à l'intérieur. C'était une horreur. Mais j'étais quand même étonné de trouver un texte dessus.
Ouais.
C'est très rare, hein, de trouver un texte. Il est sur Internet. Hein, si vous regardez un petit peu le siège de Moravel, on dévie complètement du sujet. Mais voilà, juste pour vous dire que c'était d'une violence inouïe. Évidemment, toutes les guerres ne sont pas roses. Hein, mais là, quand même, c'est, on avait atteint des sommets.
Eh bien, Pascal, merci pour ces précisions.
Merci à toi, Christophe.
On parlait tout à l'heure d'un tournage en Périgord. C'était au château de Biron, précisément. Hein.
Ah.
Voilà, j'ai retrouvé.
Donc voilà, voilà.
Voilà, on en parlera avec notre invité.
On en parlera avec Christophe, donc il a fait la figuration. Il va nous parler un petit peu comment, mais quelle est sa démarche, comment il l'a vécu. Moi, il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, bon, toi, t'es bon pour le service.
Très bonne idée.
Tu viendras dans mon émission.
Ouais.
Nous parler de cette passion qu'il y a pour le cinéma, mais surtout pour il a mis le pied sur le terrain. Donc ouais, ça va être chouette.
Voilà.
Moi, je vous le dis, ça va être super chouette. Venez, j'espère que vous serez là.
Voilà.
La semaine prochaine.
Et dans l'immédiat, je laisse le mot de la fin, Pascal.
Oui, alors, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air. Et bien, venez nous voir au ciné. On a plein de choses à vous montrer.
Ah, c'est chouette. À très vite.
À tous et à toutes une bonne semaine. Oui, salut Christophe. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à tous et à toutes.